Voici la main verte, celle d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à
Alain.
Tous.
Ce matin, vous partez d'un constat Alain, puisque tous les pays, ou presque, ont une plante comme symbole.
Oui, les deux exemples les plus fameux étant le Canada avec la feuille d'érable qui orne son drapeau et le Liban qui en fait de même avec le cèdre. D'autres pays possèdent aussi sur leur étendard des végétaux comme le Mexique avec un figuier de Barbarie, l'Équateur avec des feuilles de laurier et de palmier, et enfin le drapeau du Belize qui représente deux travailleurs, un métis et un créole. Les deux hommes sont sous un arbre avec pour devise, et elle est magnifique, « Je fleuris à l'ombre ». Alors, il est aussi possible de citer, bien sûr, le drapeau des Nations Unies orné de feuilles d'olivier, un arbre symbole de paix.
Et en cette journée de l'Europe, les 70 ans de l'Europe aujourd'hui, quelles sont les fleurs les plus souvent choisies par les États membres ?
Le coquelicot remporte les suffrages. Il a été choisi par la Macédoine, la Pologne, l'Albanie, la Belgique avec, il faut le souligner, l'iris et la gaillarde. En France aussi, le coquelicot possède une très forte valeur symbolique, comme en 1789 et lors de la Commune en 1871, quand il devient l'emblème le plus éclatant de la liberté.
Et d'ailleurs, Alain, d'où vient le nom, le mot coquelicot ?
Oh, la réponse est simple. Toute simple, il tient son nom de la couleur rouge de la crête du coq, cocorico, coquelicot.
Certaines plantes sont des symboles évidents pour des pays.
Oh, bien sûr, comme les Pays-Bas avec la tulipe, la Suisse avec l'edelweiss, la Grèce avec le laurier. Alors, la rose, elle, est une fleur appréciée des Anglais et des Bulgares. Les arbres, sachez-le, ne sont pas en reste comme la Slovaquie qui a opté pour le tilleul et le Portugal qui a plusieurs plantes symboles mais qui possède bien le chêne-liège ou encore Monaco avec le caroubier, un choix excellent pour ce petit état et vous allez comprendre pourquoi. Le caroubier est une plante originaire de Syrie et d'Arabie, puis il a colonisé le pourtour méditerranéen. Quand la plante fut introduite en Italie, elle fut appelée par les jardiniers carato.
Carato, d'ailleurs, qui a donné le cara pour l'or.
Eh oui, comme l'unité de masse, vous avez bien raison de le préciser, pour le commerce de l'or et des pierres précieuses. Un cara vaut très exactement 0,2 grammes, le poids exact d'une graine de caroubier, une graine qui servit longtemps de poids de mesure pour les Égyptiens pour devenir la référence en joaillerie. Le caroubier est donc l'arbre symbole de Monaco, et je crois que ce n'est pas par hasard.
Vos conseils à présent, Alain Baraton, et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs qui ont écrit sur le site franceinter.fr. Roland a une question pour vous. Alors, Roland précise qu'il est dans un habitat participatif avec donc un toit végétalisé. Et lorsqu'on regarde les conseils sur Internet, dit-il, il faudrait procéder à un désherbage de ce toit végétalisé, un désherbage manuel plus ou moins régulier. N'est-il pas possible plutôt de laisser faire la nature, vous demande Roland.
Eh bien non, parfois les sites internet ne disent pas des sottises. C'est le principe même du toit végétalisé, c'est déjà bien entendu d'offrir une apparence esthétique. Il faut que ce soit beau. Mais l'avantage du toit végétalisé, c'est que ce toit peut être un remarquable isolant thermique. C'est également une structure qui peut réduire la pollution, qui va absorber les eaux de pluie, ça peut être également un toit qui va servir d'isolant phonique par rapport au vacarme de la ville ou du lointain. Donc il faut tenir compte des plantes qui composent cette toiture, car l'une des plantes qui risque de disparaître au profit d'une autre qui n'aurait pas quelques caractéristiques, toutes ces qualités que je viens d'énumérer risqueraient fort de disparaître. L'immense majorité des toitures végétalisées sont par exemple composées de sédum. Il y a quantité de variétés de sédum. Mais prenons un autre exemple. Vous avez aussi la fétuque. C'est une graminée qui aime les atmosphères sèches. Si vous êtes dans une région un petit peu sèche et que vous laissez faire votre toiture, vous n'aurez plus que de la fétuque très rapidement. Eh bien, votre toiture risque fort de devenir assez laide vite et inutile encore plus vite.
Une question d'Amélie qui aimerait multiplier son pied de guimauve officinale, un pied qu'elle a planté il y a 7 ou 8 ans. Comment faire, vous demande Amélie.
Oh, la guimauve, déjà, vous la connaissez, c'est la mauve. C'est une plante qui ressemble par la floraison à la rose trémière. Alors, il est possible de multiplier la guimauve principalement par trois méthodes. La première, ce sont par semis. Alors, vous récoltez les petites graines à l'automne, vous laissez passer l'hiver tranquillement et vous semez au printemps. C'est encore possible, mais il ne faut pas trop attendre. On peut également le faire par des boutures, de bonnes vieilles boutures de tiges. Là, par contre, on ne pourra le faire qu'en été. C'est trop tôt. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'éclat de souche ou la division de souche. Vous sortez, vous extirpez avec la bêche un pied de guimauve. Vous donnez des coups de bêche pour bien séparer en éclats, vous replantez et vous avez autant de plants que d'éclats. Et là, c'est une technique qui est très efficace, simple à faire, mais je préfère le faire à l'automne. Donc en ce moment, la seule chose à faire, c'est par semis, en espérant avoir récolté à l'automne les graines. Donc j'ai bien peur que pour Amélie, ce soit ou trop tôt ou trop tard.
Frédéric vous demande quelques conseils pour bien désherber un massif. Frédéric qui précise que lorsqu'une plante couvre-sol est envahie par des plantes adventices, il faudrait presque utiliser une pince à épiler. Alors, y a-t-il une meilleure méthode, vous demande Frédéric.
Non, peut-être pas la pince à épiler, mais il faut plonger sous les plantes tapissantes et arracher le végétal qui risque la pâte, un peu comme le liseron. On connaît le problème du liseron, vous avez une haie de buis par exemple, on voit quelques petites feuilles de liseron, et bien souvent il ne suffit pas de tirer dessus pour extirper le végétal, il faut aller à la base pour arracher la souche et la racine. Là c'est pareil avec les plantes tapissantes. Quelle que soit, j'allais dire, la beauté de cette plante, quelle que soit sa rapidité de croissance, il y a toujours quelques intrus qui viennent et qui tentent de coloniser. Eh bien oui, on arrache. Alors, on fait attention, parce que la terre est basse, on met une ceinture pour se protéger le dos. Attention, on se met aussi un petit coussin sous les genoux pour ne pas s'abîmer les jambes, parce que parfois, on s'endommage physiquement. Le jardin doit rester une source de plaisir. Non, mais vous savez, chère Patricia, j'ai un physique robuste, comme vous le savez. J'ai beaucoup souffert physiquement et je voudrais que ceux qui nous écoutent aujourd'hui prennent soin d'eux. C'est tellement bête de jardiner et d'avoir un tour de rein vous-même. Quand on voit comment vous déplacez avec vos problèmes dorsaux, Patricia.
on va en parler plus tard devant la machine à café si vous voulez bien. On termine Alain Baraton avec un livre pour terminer donc.
Oui, les alternatives biologiques aux pesticides, ce sont les solutions naturelles au jardin et en agriculture. Et je vous aime, Patricia Martin. C'est d'Éric Petiot et Patrick Goaté. C'est publié aux éditions Terran. Tout est dit dans le titre et c'est l'occasion de se documenter sur les meilleures méthodes pour entretenir son jardin.
À demain, la marathon.
À demain avec plaisir.
À demain.